Avant de commencer, ben, on va commencer par prier. Je sais qu'on a prié beaucoup, mais on va prier. Seigneur Jésus, je te prie de me guider, de guider mes paroles, de guider ce que je vais dire de ma bouche, que tout ce qui sort de ma bouche soit inspiré de toi, que rien qui sort qui ne soit pas de toi, Seigneur, que rien de ma chair ne puisse embarquer ou ajouter des paroles que toi, tu ne voudrais pas que tu rajoutes, Seigneur. C'est un message que tu veux parler à ton corps, à ton Église, Seigneur, et donne-moi la capacité de bien le livrer, Seigneur Jésus. Et Seigneur, que ce soit comme une parole qui vient trancher, Seigneur, et que ça parle vraiment au cœur de chaque personne. Tu
veux-tu rajouter quelque chose? Oui, Seigneur, que quels que soient les mots qu'on emploie, ce soit ton esprit qui témoigne à notre esprit de ce que tu voulais dire ce matin. Oui, Seigneur, afin qu'on comprenne selon l'esprit. Et non selon notre chair, non selon nos pensées propres, mais selon l'Esprit, qu'on comprenne ce que tu voulais nous dire ce matin et qu'on soit des cœurs qui soient tendres pour recevoir cette parole, Seigneur, et qu'on la mette en pratique, Seigneur Dieu. Amen.
Fait que ce matin, j'ai dit que j'allais faire une petite blague à Yvan. Quand il a commencé sa dernière prédication au début du mois, il a fait deux exemples. Puis, à ce moment-là, je le savais qu'on m'avait demandé pour apporter le message. Puis, je le savais à peu près c'est quoi l'idée que je voulais apporter. Fait que j'espère que tu as breveté tes exemples, ou j'espère que tu ne les as pas brevetés et que tu ne reviendras pas contre moi. Je les ai pris, j'ai juste pour faire un clin d'œil, mais j'en ai d'autres aussi. Bon, un petit peu d'humour juste pour commencer. Ce matin, je voyais tout ce qui se passait, l'équipe de danse qui jouait en même temps que nous, on apportait la louange, les témoignages, la prière qu'on a faite, les paroles. Ça va un petit peu en lien avec le message que moi j'avais sur mon cœur. Et donc, je suis béni. Écoutez, c'est pas une prédication, c'est une parole d'exhortation, un pratico-pratique, quelque chose qui est un message pour ce qu'on vit présentement dans notre assemblée. Puis je crois qu'il va chacun nous fortifier, nous, chacun ensemble. Donc, suivez-nous ensemble.
Ils l'ont déjà mis en pratique ce matin.
Fait que même si vous ne le savez pas. Donc, suivez-nous avec nous, restez jusqu'à la fin. Si vous dites, ben où est-ce que ça en va, c'est pas grave, j'ai un fil conducteur, j'ai un chemin. Si vous dites, ben là, je ne sais plus trop, il y a un moment donné, il y a un point qui tout se ramène puis tout se rassemble. Fait que... partez pas avant la fin, dites pas Francis, il dit des choses bizarres un matin, je vais m'en aller, puis dites pas ça tout le monde, Francis, un matin, ça va pas, là. Non, attendez, puis suivez jusqu'au bout. Donc, le titre du message, c'est « L'Église, un corps, une âme, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu ». Donc, le premier passage qu'on va lire, c'est dans Exode 18, 13 et 26. Donc, un petit peu, pour mettre dans le bain ou dans le concept un petit peu du passage, on est dans le temps de Moïse qui dirige le peuple, puis on est aussi dans le moment où, dans ces versets-là, où Jéthro revient avec la femme de Moïse, puis il va comme rencontrer Moïse. Ça faisait longtemps que Moïse n'avait pas vu sa conjointe et son beau-père. Puis, dans le verset, quand on commence, juste pour commencer un petit peu avant, dans le verset 17, ça dit « Moïse s'assit pour juger le peuple, et le peuple se tint devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple, et il dit « Que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul? » Verset 17-18, le beau-père de Moïse lui dit « Que fais-tu? Ce que tu fais n'est pas bien. » Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi, car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras y souffrir seul. Donc, Jéthro, il est un petit peu à l'extérieur où il regarde avec des yeux un petit peu différents. Puis il voit ce que Moïse est en train de faire, puis il voit tout le peuple qui va le voir, puis qui va le consulter. Puis Moïse, du matin jusqu'au soir, il fait comme un peu le juge ou l'intercesseur avec Dieu, puis avec le peuple, puis il rend un petit peu son verdict, puis il prie, puis il est tout seul à comme supporter la charge qu'il est en train de faire. Puis Jéthro, il dit, ben tu vas t'épuiser toi-même, mais pas juste toi-même, tu vas épuiser aussi ce peuple-là qui vient à toi, puis qui peut attendre des heures avant d'avoir une réponse, qui vient comme devant le roi, puis il attend que le roi donne son verdict un petit peu. Donc, puis il dit que la chose au-dessus est au-dessus de tes forces, tu pourras te... Tu sais, à un moment donné, tu peux être capable de souffrir, mais à un moment donné, il dit, ben tu vas t'épuiser. Tu peux pas, à un moment donné, faire ça pendant plusieurs... Puis on sait que le peuple a été 40 ans dans le désert. Si tu fais ça pendant 40 ans, tu te rendras même pas jusqu'à la fin du désert. Tu vas t'épuiser, tu seras pas capable de suffire. Donc, ce que Jéthro, il fait, ben, du verset 19 à 22, il va lui donner 4 conseils. Moi, j'ai ressorti 4 conseils que Jéthro va lui donner. Puis, on va sortir avec des exemples, avec Sylvie, un peu pour nous, avec nous, qu'est-ce qu'on vit, comment ça peut s'appliquer, ces conseils-là. Donc, le premier conseil que Jéthro va donner, c'est « Enseigne-leur les ordonnances et les lois. Fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. » Donc, Moïse, c'est pas lui qui s'est choisi lui-même, c'est pas lui qui a décidé « je vais prendre cette tâche-là ». Moïse, il était sûrement bien avec le Pharaon, mais c'est un peu l'appel de Dieu aussi que Dieu a choisi que ce serait Moïse. Pourquoi Moïse? Pourquoi pas plus un autre? C'est Dieu qui a choisi que c'était Moïse à ce moment-là. Puis c'est lui qui lui donne le but à atteindre puis la marche à suivre pour y arriver. Puis il donne, à travers Jéthro, Dieu veut lui donner une marche à suivre ou une manière de faire pour un temps précis. Donc il lui dit, il lui montre un petit peu le chemin qu'il doit suivre, ce qu'il doit faire, les directives précises. Des directrices qui sont claires, afin que chacun ne fasse pas bon ce qu'il lui semble. Puis un grand peuple comme ça, il y avait beaucoup de monde dans le désert. Tout le monde aurait pu décider de faire à peu près ce qu'ils veulent. Puis ça aurait été difficile à gérer à un moment donné, ça aurait été instable. Donc sa tâche c'est de bien comprendre ce que Dieu veut, puis qu'est-ce que Dieu veut transmettre au peuple, puis de leur enseigner. Donc Jéthro, il dit, enseigne le peuple à bien suivre les lois de Dieu puis les ordonnances. Puis ça, déjà là, ça va t'alléger un petit peu la manière de conduire le peuple. Puis c'était pas juste les responsables, c'était pas juste lui le seul responsable là, à ce moment-là. Puis Sylvie va nous expliquer un petit peu avec le but de l'Assemblée pour 2017.
Ben 2017, on le voit toutes les semaines, en 2017, soit vainqueur. On a des choses à vaincre personnellement, mais on a des choses aussi à vaincre collectivement en tant qu'Assemblée. Puis une situation comme celle-là nous donne une occasion de faire un pas de plus dans une certaine victoire d'Assemblée pour pas avoir crainte, puis rester comme ensemble, parce que c'est dans le sens, il y a une unité que Dieu demande pour voir sa gloire. On veut voir sa gloire, la gloire a commencé à se faire, là, puis tout ça. Fait qu'on en veut encore plus, fait que c'est comme... Ensemble, il faut rester ensemble puis être vainqueurs ensemble là, pour avancer là, dans notre assemblée présentement.
Donc, le deuxième conseil que Jéthro va donner à Moïse, « Choisis parmi le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité, établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. » Donc, il dit « Prends des hommes qui aiment Dieu, qui craignent Dieu, qui veulent suivre Dieu, puis qui vont pouvoir t'aider dans ta tâche. » C'est un petit peu ça qu'il est en train de dire. Puis ces chefs-là, que ce soit de 1000, de 10, de 100, 500, ils n'ont pas toutes la même envergure de tâche. Selon chacun sa responsabilité, sa capacité, son éducation, qu'est-ce qu'il est capable de supporter. Donc, si tout le monde supporte un peu la charge avec sa capacité, puis qu'on enlève un peu de charge ou que Moïse délègue un peu sa tâche, bien, ça fait en sorte que tout le monde va être capable de supporter avec sa capacité, puis sa force, puis la force que Dieu donne. Donc, toi, Sylvie, comment tu vois ça?
Bien, aussi, c'est ça, au niveau de notre assemblée, c'est ça, chef 10, 50, tout ça, on a des responsables, OK, de département, mais on a aussi le CA. Puis, il y avait aussi des critères, parce qu'il donnait des critères, quels hommes choisir pour être ces chefs de 10, 50, 1000 ou tout ça. Fait que nous, quand on fait les élections, vous les voyez, les critères, c'est acte 6-3, des gens qui ont un bon témoignage, plein du Saint-Esprit, plein de sagesse. Fait que le comité qu'on a, on a élu des gens de ce genre-là. Alors, on peut avoir confiance qu'ils sont là, puis ils vont agir au meilleur de leur connaissance avec la sagesse que Dieu leur donne. Puis, c'est un peu ça, là, puis même les responsables aussi, le département, il y a tout ça, fait qu'il y a déjà comme... Mais aussi, les uns avec les autres, tout le monde peut s'exhorter les uns les autres, on peut agir envers quelqu'un d'autre pour l'aider ou des choses comme ça. Fait qu'on est là, tu sais, même si t'es pas nommé chef de 10, si toi, ton environnement de chrétien, tu en as environ une dizaine, t'es responsable d'aider, puis d'exhorter, puis de qu'on reste ensemble, qu'on reste unis, fait que c'est toujours la même chose aussi. Fait que ça y est quand même ce modèle-là aussi, là. Fait que c'est dans ce sens-là. Puis je pense qu'en tant qu'assemblée, quand le pasteur est pas là, faut comme aider notre CA à faire ce qui lui a été demandé de faire en collaborant avec lui, hein, pour pas que justement les épuiser ou que le fardeau soit trop lourd. Fait que c'est le temps là, de se soumettre les uns aux autres, de s'aider les uns les autres, puis c'est ça, ils sont pas là pour faire leur volonté non plus, ils sont là pour continuer les principes que le pasteur déjà a enseignés en tant qu'assemblée, puis en tant que responsable de chacune des tâches, fait que c'est là aussi.
Donc, le troisième conseil, c'est qu'il juge le peuple en tout temps. En tout temps, les responsables, comme Sylvie disait, pouvaient intervenir, non pour faire leur volonté ou comme ça leur semblait de faire, ou comme un matin, ils se sont levés et se sont dit, ben moi, ça me tenterait de faire ça un matin. Mais il y avait quand même une autorité, Moïse, qui était au-dessus, qui chapeautait tout, puis il n'était pas là pour faire leur volonté. Puis les critères de dire, bon, ça prend des hommes qui aiment Dieu, qui craignent Dieu, qui vont vouloir suivre Dieu, ben ça rassure une certaine sécurité de dire, bon, ils vont pas décider un jour au lendemain de déraper puis dire, moi, je serais ça de même, moi. Donc, mais c'est celle de Dieu qui est transmise par Moïse puis par les personnes qui sont déléguées pour le faire. Donc,
c'est ça, les membres du CA ont une autorité déléguée présentement, c'est ça, de faire non à leur tête, mais pour appliquer les directives et faire appliquer ces directives-là que le pasteur a déjà exprimées. Fait qu'on a des directives générales que tout le monde savent, puis il y en a des plus particulières que je vais vous en nommer tantôt quelques-unes pour que, je dis, plus que le monde le sait, plus que ça va être facile. Et c'est pour ça que vous allez voir, Daniel va vous demander qu'est-ce que vous voulez parler avant de vous permettre de témoigner en avant, pour que justement, il faut quand même garder aussi une saine doctrine, il faut garder les choses en unité, il faut qu'on marche ensemble. Alors, frustrez-vous pas s'il va vous voir et dire, ben, qu'est-ce que tu veux parler? Puis c'est pour ça qu'on veut moins comme tel, sur le coup, on veut que vous alliez voir Daniel aussi pour exprimer qu'est-ce qu'il y a. Puis, s'il y a quelque chose que lui, il pense que c'est pas correct, il vient me voir. Jean-Pierre, il dit, chapeau, t'es un peu osé. Fait que je suis là aussi. Fait que c'est dans ce sens-là, là, vous êtes en sécurité. Puis on veut qu'on reste en sécurité justement par ces petites choses qu'on va observer les uns avec les autres.
Puis, le dernier point, ben, en faisant toutes les trois premières, ça dit, allège ta charge et qu'il la porte avec toi. Donc, si chacun, on aide, que ce soit là les personnes, c'était Moïse, mais si on aide notre pasteur ou les responsables ou le CA avec notre fidélité, puis qu'on reste responsable, puis qu'on garde la sécurité et la paix, bien, ça fait en sorte que Moïse ou les membres du CA ou Jean-Pierre, bien, s'épuisent moins, puis le peuple aussi, nous autres aussi, on va moins s'épuiser, puis on va savoir c'est quoi les directives, puis c'est un peu les règles. Puis de même que chaque membre du peuple, c'est chacun de nous, peut alléger la tâche de leur pasteur en appliquant les directives de bon cœur et en marchant en collaboration avec lui et avec ceux qui sont établis responsables. Puis pourquoi que Jethro, il a comme décidé, ou c'est pas Jethro, c'est vraiment Dieu qui a inspiré Jethro, parce qu'il était à l'extérieur, puis Moïse, il était comme dans le dé tout deux, puis il a comme pas réalisé qu'est-ce qui se passait. Puis ça fait quoi comme conséquence, ça, pour Moïse, puis aussi pour nous comme assemblée? C'est quoi que ça l'apporte? Qu'est-ce que ça a de bénédiction? Dans le verset 23, ça dit, « Tu pourras y souffrir en tout temps. » Tu pourras y souffrir et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination en paix. Donc, c'est une clé de pouvoir arriver à destination en paix, dans la victoire, sans qu'on soit épuisé et que nos responsables aussi ne soient pas épuisés. Donc, Jethro est en train de donner des conseils à Moïse. Il lui dit qu'il va s'épuiser s'il continue d'agir de la sorte, même si Moïse est un homme de Dieu, c'est un grand homme qui est loin de Dieu, qui est rempli de la présence de Dieu, il demeure que ça demeure un homme. Chaque personne, même si on est rempli de la présence de Dieu, à un moment donné, on peut devenir épuisé. Donc, Jethro lui donne des conseils remplis de sagesse afin de pouvoir diriger un peuple nombreux sans s'épuiser, être en mesure d'amener le peuple à destination en paix sans que personne ne s'épuise, surtout qu'ils ont marché 40 ans. Ben, il fallait pas qu'ils s'épuisent après 10 ans parce qu'il en restait 30 aussi.
Peux-tu juste me poser cette question-là? OK. Est-ce que Moïse, pendant tout ce temps-là, il déléguait certaines tâches, est-ce qu'il était inutile?
C'est une bonne question. Mélanie, dans ses cours, elle me dit une phrase à un moment donné, puis elle m'a lancé ça, puis je l'ai catché, mais je trouvais que ça allait bien avec ce qu'on parlait. Donc, la phrase qu'elle me dit, c'est « Le rôle d'un gestionnaire, c'est de devenir inutile. »
Sauf que ça ne s'applique pas à 100%.
Donc, on va prendre le temps de s'expliquer qu'est-ce que ça veut dire.
Oui.
Puis qu'est-ce qu'on veut dire à ce niveau-là, puis qu'est-ce qu'on veut apporter dans le titre de notre message. Mm-hmm. Donc, le gestionnaire peut et doit être utile, mais même s'il n'est pas là, son équipe est capable de fonctionner en appliquant les directives reçues à date du gestionnaire et ne pas dépendre toujours du gestionnaire. C'est que le département peut continuer à veiller à ses obligations quotidiennes, le day-to-day, l'opérationnel. Je pense que des personnes qui sont bien formées, qui sont bien enseignées, qui sont bien éduquées, qui savent un peu leurs responsabilités, leurs tâches qu'ils ont à accomplir, ils n'ont pas besoin de toujours leur responsable à côté pour leur dire quoi faire. C'est pour ça que Jethro est en train de dire « enseigne-leur, donne-leur des ordonnances, explique-ci c'est quoi les lois principales, le gros bon sens, pour qu'ils sachent quand même de savoir comment fonctionner. On a toute une connaissance, on a toute une intelligence, puis Dieu nous a pourvu d'intelligence pour être capable de fonctionner dans le dé toujours, sans qu'on soit toujours en train de demander bien, qu'est-ce que mon gestionnaire ou qu'est-ce que mon patron ferait. Non, non, tu le sais, je t'ai donné de l'instruction, je t'ai donné un peu quoi faire. Donc, c'est le gestionnaire a su déléguer et former son équipe pour que son équipe puisse être autonome tout en conservant une ligne directrice. Donc, c'est pour ça qu'il dit d'enseigner, parce qu'il faut qu'on quand même qu'on garde une ligne directrice, qu'on sache un petit peu où on s'en va aussi dans tout ça.
Puis, je pourrais peut-être un peu dire quelque chose. Vas-y. C'est ça, c'est parce que si, c'est ça, Jean-Pierre a déjà donné plein de directives dans quel sens on allait en tant qu'assemblée. Fait que c'est pour ça, s'il y a des nouveaux projets, ça, on va attendre qu'ils reviennent. Vous pouvez les cogiter, tout ça, mais on va attendre qu'ils reviennent parce qu'il y a quand même des lignes directrices là, qu'on va suivre en attendant. Puis, ça ne diminuera pas la gloire, on l'a vu ce matin. Là. T'sais, la gloire n'est pas attachée à cette directive-là. La directive, c'est pour faciliter le fonctionnement. Puis quand vous les retenez, puis que vous soumettez aux responsabilités les uns des autres, bien là, ça va aider. Là. Parce que c'est ça, il était en fonction, le gestionnaire devient comme inutile, c'est pas le bon mot, là. Pas pour nous autres, en tout cas, c'est quand chacun, il sait quoi faire, mais il le fait. Tu sais, c'est pas juste de le savoir, c'est qu'on le fait. Fait que là, tu sais, chacun s'attache, ils disent le petit proverbe, et les vaches seront bien gardées. Tu sais. On n'est pas des vaches.
Non, on est des brebis.
Encore, là. Non, mais chacun, quand il sait qu'est-ce qu'il a à faire, puis qu'il le fait, en fonction des autres aussi, parce qu'on n'est pas seul, on ne devient pas là, que quand le pasteur n'est pas là, que tout le monde devient des mini-pasteurs. C'est pas ça, là, tout le monde devient qui dirige, c'est pas ça. Moi y compris, je ne suis pas celle-là qui va décider non plus. Fait que moi aussi, je me soumets aux mêmes directives. C'est tout le monde, on se soumet aux mêmes directives, puis on va arriver à la place où ce qu'on devrait, puis on va même grandir ensemble. On va se souder ensemble les uns les autres. Parce que ça ne repose pas sur un homme. T'sais, si on veut construire un édifice, ça repose sur un, ben c'est comme ça, là. Tu veux grandir, ça repose sur un, ça va tomber, hein? Parce que c'est ça, il peut s'épuiser, il peut mourir, il peut avoir n'importe quoi. Mais si on est grandi la base avec la même pensée du Seigneur, parce qu'il cherche la volonté de Dieu pour vous la donner, on est grandi la base, ben on est comme ça. T'sais? Puis là, ça ne tombe pas sur le côté. T'sais? Ça fait qu'on va se solidifier ensemble.
Donc, à ce moment-là, si on a dit que le gestionnaire n'est pas vraiment inutile, mais qu'est-ce qu'il fait? Parce que là, les employés ou les personnes sont en train de faire leur tâche, leur responsabilité. Il fait quoi, lui, finalement? Il est en vacances 24h/24? Non. Il s'occupe des décisions stratégiques, d'organiser des plans d'action, de continuer la formation. Il informe son équipe des directions à prendre, des changements, des ajustements au fur et à mesure des circonstances qui se présentent à son équipe. Il lui informe les problèmes rencontrés au niveau des tâches. Donc, c'est un peu le...
Tu vas avoir la tête, tu peux parler moins vite. Excusez.
Tu as raison. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il prend le temps. Oui, c'est ça, je prends le temps. Fait qu'il prend le temps de penser. Non, c'est correct, je te remercie. Il prend le temps de penser, de réfléchir à ce que Dieu veut ou qu'est-ce que il veut apporter son entreprise. C'est où qu'il va aller apporter ses employés? Ses employés, ils n'ont pas le temps de penser à ça parce qu'ils font leur day-to-day, mais le gestionnaire, c'est son rôle de le faire. Donc, le pasteur, son rôle, c'est d'aller chercher la vision, qu'est-ce que Dieu veut pour notre assemblée, qu'est-ce que Dieu veut pour nous, mais c'est au pasteur de prendre le temps de dire, OK, Dieu, montre-moi ce que tu veux, où est-ce qu'on s'en va, pour qu'on je donne les instructions puis les directives, puis qu'on s'en aille tous dans le même sens. Donc, où est-ce que je veux en venir avec la gestion? parce que là, je suis comme tombé dans mon côté gestionnaire, mais si on revient à l'Église, j'ai toujours été en train de donner des conseils de gestion à Moïse, puis au verset 20, ça dit, il dit, « Explique-leur les prescriptions et les lois à suivre. » Il est en train de dire à Moïse, « Instruis le peuple pour qu'il sache comment agir et marcher dans les voies de Dieu, comme un pasteur qui enseigne, qui instruit, qui exhorte, qui montre le chemin à suivre. » Il est en train de lui expliquer comment former des disciples et de vivre en tant que corps de Christ, l'Église du Dieu vivant. Donc, c'est pour lui alléger la tâche. La tâche de Jéthro, c'est lui dire de s'entourer d'hommes avec qui il va avoir une certaine confiance, qui va avoir de la confiance, puis qui ont des caractéristiques comme un homme de valeur, un homme qui craint Dieu, un homme qui est attaché à la vérité. C'est un homme qui est haïssant le gain malhonnête. Puis ça fait quoi, ça, cette fonction de ces hommes-là, qui dit de les établir sur 1000, 200, 250, de 10? C'est, tantôt on disait, ben, qu'est-ce que le gestionnaire fait? Ben, tous ces responsables-là qui s'occupent d'une certaine lot de personnes, ben, ils s'occupent des affaires secondaires. Ça veut pas dire que c'est pas important, mais c'est des affaires qui sont secondaires, qu'ils portent la tâche de Moïse avec lui. Mais donc, Moïse, il va s'occuper de plus la tâche un petit peu principale, les rôles principaux qu'il doit apporter pour la construction de l'Église, pour qu'une assemblée ne repose pas sur une seule personne, tout en collaborant et en, comme Sylvie disait, dans l'assumption les uns avec les autres, puis dans le respect. Puis aussi qu'on soit toujours vigilant à discerner les ruses de l'ennemi qui cherche à nous distancer les uns les autres. Donc, ça laisse du temps à Moïse ou ça laisse du temps au pasteur de s'occuper des affaires qui sont plus importantes, de voir un petit peu plus haut, d'aller monter sur la montagne, puis de voir un peu plus haut qu'est-ce qui s'en vient ou qu'est-ce qui se passe. Puis, au début, c'est Jéthro qui donne le conseil à Moïse. Puis Moïse, ben, on n'était pas là, il s'étudie, ben, voyons, c'est qui Jéthro, c'est moi qui ai Dieu à placer, puis c'est moi qui sais, je suis mieux placé pour savoir. Je veux dire, c'est moi que Dieu a choisi, c'est pas Jéthro. Mais finalement, à un moment donné, plus loin, on voit que même Moïse, il reconnaît que finalement, c'était peut-être un bon conseil, c'était peut-être une bonne idée, le conseil que Jéthro est en train de lui donner. Puis même Moïse, il dit à Dieu, « La charge du peuple est trop lourde à porter pour lui seul. »
Nombre 11.
Donc, il y a comme trois versets, 14, 17 puis 25. Donc, le premier verset, ça dit, « Je ne puis pas, à moi seul, porter ce peuple, car il est trop pesant pour moi. » Donc, il reconnaît, est en train de réaliser que oui, c'est peut-être vrai qu'est-ce que le conseil que le Jéthro me disait, puis il est en train de réfléchir avec lui-même dans sa tête, puis il commence à reconnaître que si je veux continuer à faire ça pendant plusieurs années ou pendant un certain laps de temps, selon le temps que Dieu me donne, je suis peut-être mieux de commencer à écouter les conseils que Jéthro me donnait. Puis en verset 17, ça dit, « C'est Dieu qui est en train de lui parler. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux, ben, les hommes qu'on a parlé tantôt, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas toi seul. » Donc, au début, c'était Jéthro qui donne un conseil à Moïse qui est inspiré de Dieu. Mais dans le verset 17, on voit que c'est Dieu qui est en train de parler. C'est comme si Dieu était en train de dire qu'est-ce que Jéthro, il venait de dire. Bien, ça vient de moi. C'est pas juste Jéthro qui a eu une idée de même, un éclair de génie. Non, Jéthro était inspiré par Dieu à faire ça. Puis là, c'est Dieu qui est en train de dire à Moïse, « Garde, fais ça. » Puis là, dans le verset 25, ça dit, « L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. » Donc, il est en train de dire, le conseil de Jéthro, je vais le faire, puis en plus, je vais prendre des personnes qui vont t'aider dans cette tâche.
Oui, ça va être des personnes, c'est ça, remplies de son esprit un peu, qui vont dans la même onction. Fait que ça rassurait Moïse aussi que ce ne serait pas des gens là, qui causeraient du trouble, là, mais ce serait des gens qui, justement, il y aurait la même onction, puis que Dieu mettrait l'esprit pour qu'ils comprennent justement où ce qu'on s'en allait, puis qu'ils puissent l'appliquer.
Bon, je vais m'arrêter 2 minutes pour être clair, puis s'il y a du monde qui sont partis avant, qui comprennent un peu ce que je veux dire. c'est justement, il faut que, après ça, on va comprendre où on s'en va, mais avant ça, s'il y a du monde qui sont partis avant, bien, j'espère qu'ils vont écouter le reste. Donc, ce que je veux dire, c'est que je crois en l'importance du rôle du pasteur puis des leaders spirituels au sein de l'Église. Comme Moïse, qui avait un rôle crucial à jouer, comme Moïse était l'homme de la situation que Dieu avait utilisée, qui avait formé pour conduire le peuple, puis c'était lui aussi qui montait à la montagne. C'est lui seul qui montait à la montagne. Il n'y a personne d'autre qui montait, qui parlait face à face avec Dieu. Il était le seul. Il y avait une raison, parce que c'était le leader spirituel, parce que c'était son rôle, c'était sa tâche, et le mandat que Dieu lui avait donné. Comme le pasteur qui monte sur la montagne pour recevoir les instructions de Dieu pour son assemblée. Et je fais un petit témoignage. Je crois que je suis un des premiers à dire que le rôle du pasteur, c'est important, puis que Jean-Pierre a une place importante. Lorsque je suis revenu à l'église, j'avais à peu près 2 ans et demi, Jean-Pierre m'a appelé. C'était dans le temps de Mario Mascotte, la première fois qu'il est en toi, là 2 ans à peu près. Puis Jean-Pierre, il est venu me saluer, puis c'est lui qui m'a rappelé. J'étais surpris qu'il m'appelle, puis dire, j'aimerais ça qu'on aille prendre un café ensemble. Je dis, oui, mais tu connais-tu ma situation? Je suis pas vraiment la bonne situation pour me... C'est peut-être pas le bon temps pour m'appeler. Ma situation est pas super géniale non plus. Je dis, non, regarde, on va aller prendre un café ensemble. Puis on a passé 3 heures au Tim Hortons ensemble à parler, à expliquer ce que j'avais vécu dans les 10 dernières années. Puis il était l'homme qui m'a aidé, qui m'a tendu la main. Il était l'homme qui m'a aidé, qui m'a fortifié, puis qui a cru en moi. Il y a du monde qui aurait pu dire, Francis, sa vie, c'est pas drette. Mais Jean-Pierre a eu le discernement de tendre la main, puis m'a aidé, puis m'a encouragé dans aller de l'avant, puis il a vu ce que Dieu avait placé en moi avant même que moi je le sache. Donc, le conseil de Jéthro, c'est un conseil qui était sage, afin que Moïse ne supporte pas la tâche seul pour porter seul tous les fardeaux du peuple. Comme je crois que Jean-Pierre a besoin d'une équipe pour l'aider à porter la charge et les fardeaux de l'Assemblée, afin qu'il ne s'épuise pas. Et comme un temps comme qu'on vit où ce que Jean-Pierre est malade, je voulais le souligner, l'importance que tout le corps puisse se lever, s'unir et servir les uns avec les autres, afin que l'Église puisse continuer à avancer. On a besoin aussi de l'autorité pastorale au sein de l'Assemblée. Puis présentement, on a besoin de vous, d'hommes et de femmes, qui puissent supporter la charge de l'Assemblée, afin qu'on ne soit pas paralysés par la peur. Puis au début, quand on a entendu la nouvelle de Jean-Pierre, ce que je ressentais, c'était beaucoup que le monde était un petit peu craintif, qu'il y avait de la peur, tout le monde était paralysé, puis il ne savait pas qu'est-ce qui se passait, puis ça se peut pas qu'un pasteur ait été atteint comme ça, ou a touché, ou... Puis j'ai senti vraiment de la peur, de la crainte, puis on a commencé à prier. Mais je veux juste vous dire que il n'y a pas juste... Oui, Jean-Pierre est important, mais vous êtes tous là. Vous êtes chacun de vous êtes là. Donc, on n'a pas à avoir peur, on n'a pas à rester paralysé. Comme Sylvie disait, il y a un conseil d'administration, il y a des responsables, il y a des leaders, il y a du monde qui s'implique, puis on forme un tout. Tu veux là-dessus juste un... Non? OK. Donc, on a vu un petit peu dans l'Ancien Testament. Maintenant, ça, on voit dans le Nouveau Testament, on voit que l'histoire se répète. On voit que, finalement, on peut commencer à dire que peut-être que les conseils de Jéthro, mais c'était la volonté de Dieu, puis c'est Dieu qui a comme instauré un petit peu le rôle de l'Église, puis le fonctionnement, puis la structure de l'Église. Puis donc, on voit dans Actes 1 à 3, les 12 disciples qui avaient suivi Jésus dire, il ne convient pas que nous délaissions la parole pour servir au temple. Ce n'est pas qu'ils étaient inférieurs, supérieurs ou meilleurs, ou parce qu'ils levaient le nez pour servir au temple, c'est pas ça qu'ils veulent dire, mais leur mandat à eux autres, c'était de servir, de se consacrer à la parole, à l'enseignement, puis édifier, parce qu'ils avaient passé quand même 3 ans avec Jésus, puis Jésus leur avait enseigné, puis leur avait instruit, pour qu'ils puissent après ça prendre le rôle de Jésus, parce que Jésus n'était plus avec eux, qu'il restait juste le Saint-Esprit pour leur rappeler qu'est-ce que Jésus leur avait enseigné. Donc, en d'autres mots, il y avait besoin d'autres personnes pour faire des tâches un petit peu secondaires, comme Jéthro, il disait, prends des personnes de 10, de 100, de 1000, qui vont faire un peu des tâches secondaires, puis qui vont se consacrer. Puis les autres personnes, ben, ils vont se consacrer à la croissance de l'Église, puis ça prend du monde, comme qu'on parlait tantôt. Jéthro avait comme donné des conseils, ben, c'est la même chose qu'on revoit, c'est du monde qui avait un bon témoignage, qui était rempli de l'esprit et de sagesse. Donc, on voit que l'exemple de Jéthro se répète, puis on peut se dire, ben c'est peut-être le modèle que Dieu aussi veut aussi pour chacun de nous, puis pour nous aussi comme assemblée, c'est le modèle que Dieu, on veut établir pour qu'on puisse grandir nous aussi puis avancer. Puis dans tout ce processus-là, dans ce service-là, j'ai sorti une clé, je crois que la clé la plus importante, puis je crois qu'on la vit à tous les dimanches, c'est la coopération mutuelle. C'est une clé pour la croissance puis la victoire. On voit dans Néhémie, qui est en train de faire la reconstruction de la muraille, dans Néhémie 4:16, il y a la moitié des serviteurs qui travaillaient, puis l'autre moitié qui faisaient quelque chose. Ils tenaient les armes, les lances, les boucliers, les arcs, les cuirasses. Les chefs étaient derrière toute la maison de Juda. Il y avait ceux qui travaillaient de façon manuelle, mais aussi il y avait ceux-là qui protégeaient, qui intercédaient, qui avaient les armes pour dire « Il n'y a personne qui va faire en sorte que la muraille, qui vienne attaquer la muraille. » Puis tous travaillaient ensemble à la construction. Puis il n'y avait pas une œuvre qui était moins importante ou plus importante ou secondaire, moins secondaire. C'est juste qu'il était des personnes qui étaient demandées à faire quelque chose, qui avaient des habiletés, que Dieu avait donné des habiletés. On voit quand il y a eu la construction du temple, que Dieu a donné des facultés, des habiletés à du monde de tailler les pierres, de sculpter. Donc, c'est Dieu qui a comme orchestré pour que ça fonctionne. Puis, à ce moment-là, de quelle manière est-ce qu'on doit travailler? Puis, on voit, le plus bel exemple qu'on peut voir, c'est le leadership de Jésus. C'est quoi le leadership de Jésus? C'est quoi que Jésus nous a donné comme modèle? Dans Matthieu 20, 28, ça dit... C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir. Le modèle de leadership de Jésus, lui-même, le Fils de Dieu, celui qui avait toute autorité, tout pouvoir, toute puissance, il est venu comme un serviteur en lavant les pieds de ses disciples. Dans Philippiens 2, 4, ça dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Est-ce que vous commencez à comprendre où est-ce que je veux m'en aller? On est une église, on est ensemble, on pense aux intérêts des autres, on s'aide ensemble, puis on se supporte les uns les autres, puis on se lave les pieds. On suit le modèle que Jésus nous a donné. Même à la croix, il y avait du monde qui disait, « Si tu es vraiment le Fils de Dieu, sauve-toi. » Jésus, il y a du monde qui doutait que Jésus était le Fils de Dieu, parce qu'au lieu de Jésus de dire, « J'irai pas à la croix, by the way, la prière que ta volonté soit faite et non la mienne, je viens de changer de décision. Je vais m'acheter un bungalow sur le bord de la rivière. Je vais avoir des brebis. Moi, je pense que je suis bon pour élever des brebis. Je vais avoir des enfants, une femme, deux, trois enfants. Puis peut-être qu'eux autres, si ça leur tente, ils viendront mourir à la croix à ma place. Parce que moi, ça m'a tenté à un moment donné, un dimanche matin, de dire, ben peut-être que ça me tente plus. Jésus, le Fils de Dieu, qui connaissait toute l'autorité que Dieu lui avait donnée, que son Père lui avait donnée, que son Père lui avait déléguée. Même du monde qui dit, si t'es vraiment le Fils de Dieu, débarque de la croix, puis fais en sorte qu'il y ait des anges. Jésus aurait pu dire, ben Pierre, prends l'épée puis continue à massacrer les soldats qui sont venus me chercher. Non. Jésus s'est soumis. Si Jésus est notre modèle, puis qu'on dit qu'on suit Jésus, puis qu'on dit qu'on aime Jésus, puis qu'on veut faire ce que Jésus nous demande de faire, le plus beau modèle que Jésus nous a donné, c'est son modèle. Donc, l'Église, c'est un édifice vivant. Dans 1 Pierre 2,5, c'est dit, « Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous. » Qu'est-ce qu'on fait? On s'édifie. On s'aide. On s'encourage pour former une bâtisse, une maison spirituelle. Puis la pierre principale, c'est qui? C'est Jésus. Puis Jésus, c'est quoi notre modèle? C'est servir. Non pour nous-mêmes, mais pour construire l'édifice de Dieu. Dans 1 Corinthiens 3,9, ça dit, « Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Nous sommes tous des ouvriers de Dieu pour former un édifice, l'édifice de Dieu. Nous sommes des pierres vivantes qui forment un édifice, et la pierre principale, c'est Jésus. » Il va parler dans sa prédication de la racine maîtresse. La racine maîtresse, qui voulait parler, c'est Jésus. C'est la pierre angulaire, c'est celle qui fait en sorte que tout est bien assemblé. Ce que je veux expliquer, c'est que même si le pasteur est absent, l'Église peut continuer à fonctionner, car nous tous, nous sommes une pierre vivante composant un tout, un édifice, et nous sommes appelés à être des ouvriers avec Dieu, à servir au milieu de notre assemblée. Il nous suffit de continuer à faire ce qu'on faisait avant que Jean-Pierre soit là, puis parce qu'on le sait, parce qu'on est habitué de le faire. Jusqu'à son retour, dans le service, dans la paix, dans le respect de chacun de nous, de chacun de vous.
Je vais donner quelques exemples de directives qui vont nous aider à bien fonctionner et que ça ne fasse pas des frictions, là, quand si on vous dit « attends » ou si on vous dit « non » ou des choses comme ça. Parce que ça, c'est un moyen que le diable peut utiliser aussi pour mettre la bisbise puis nous séparer. On l'a dit, garde, là, lui, il ne veut pas que je fasse ça, elle ne veut pas que je fasse ça, moi, j'ai envie de faire ça, ta, ta, ta. Ça, c'est un moyen, c'est une ruse pour nous séparer. On ne veut pas ça, on ne laissera pas ça faire. on va être au courant un peu plus. Au niveau des achats, par exemple, il y a toujours une consultation avec les personnes qui sont responsables du département. Et si là, il y a des directives de base qui avaient déjà été données par le pasteur, ça suit cette directive-là. Mais c'est toujours lui qui donne pour les achats l'autorisation finale. Et après ça, il me demande s'il y a disponibilité des finances. Parce que vous les savez pas à toutes les semaines comment il reste dans les finances ou comment on est rendu. Fait que c'est pas le temps de faire des achats juste sur votre impulsion, là. C'est pas le temps de faire ça. Au niveau des levées de fonds, c'est la même chose. C'est pour ça qu'on n'a pas mis en arrière ce que Réjean avait demandé parce qu'il n'y avait pas eu de consultation avant. On lui a expliqué à Réjean, il l'a fait de bon cœur, il était bien disposé, on ne doute pas de ça du tout, là. Mais c'est juste qu'on va attendre pour des levées de fonds parce que si, mettons, deux, trois qui ont des idées de levée de fonds dans une réunion, on va être mal arrangé à un moment donné. Que ça, il faut être vigilant là-dessus, qu'on ne fera pas d'autres levées de fonds que celles qu'on fait déjà, comme pour les missions ou des choses comme ça. On n'en fera pas d'autres jusqu'à temps qu'il arrive des levées de fonds. Aussi, même pour l'achat ou les dons d'appareils, c'est que Dieu aussi, il ne veut pas juste qu'on soit soumis les uns les autres, il veut qu'on soit soumis aux lois. En tant qu'assurance, là, les assurances du bâtiment, les choses comme ça, l'équipement, bon, mettons que vous achetez quelque chose, déjà, il faut avoir eu l'autorisation. On n'achète pas sans autorisation. Ah, ça serait bon, on utilise ça maintenant. C'est comme pour le son, là, on est en train de tout monter vers où qu'on s'en va. Fait que si on achète quelque chose, ça rentre pas dans ce qu'on voulait aller. C'est qu'on va tout le temps recommencer à faire les choses. Fait que là, faut quand même être en harmonie d'où est-ce qu'on s'en va. Fait que il y a toujours ça qui est à regarder. Puis même donner aussi, c'est la même chose, il faut que ça rentre en ligne de compte. Et nous, il faut l'avoir eu l'autorisation, mais il faut le rentrer dans nos actifs. Il faut le rentrer en tant que comptabilité dans nos affaires. Puis il faut aussi que même s'il y a de l'équipement qui sort, qui est prêté, vous dites « Ah, c'est plate, faut que j'aille voir l'aide, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça ». Ben, les assurances nous obligent à avoir une liste des équipements qui sont hors du bâtiment. Parce que ça rentre dans les clauses d'assurance. Il y a tant pour tant d'argent qui est en dehors du bâtiment. Fait que s'il y aurait un feu, celui-là, il y a toutes sortes de choses comme ça. Il y a des normes au gouvernement. Il y a des choses comme ça. Fait qu'il y a beaucoup, il y a certaines directives, là, que ça serait partout pareil. On les applique parce que c'est les lois, puis on veut être soumis aux lois. Ce qu'on vous enseigne aussi d'être soumis aux lois. Fait que c'est un peu ça. Même la location ici, on peut pas louer sans avoir une permission. On peut pas utiliser l'édifice sans que ça soit autorisé non plus. Parce que qui va venir? Tout ça, s'il arrive quelque chose, c'est qui était responsable? On a besoin de savoir tout ça. Fait que ça, vous trouvez ça peut-être un petit peu plate, mais ça fait partie là, des directives que tout le monde un peu doit soumettre les uns aux autres. Puis dans ce sens-là, ça l'amène une sécurité. On sait où sont les choses, on sait où est-ce qu'on s'en va. Fait que c'est bon pour vous. Ça, c'est des affaires pratico-pratiques, là. Mais au niveau spirituel, il y en a d'autres aussi. Tu sais, si tu vois quelque chose, tu sais que cette chose-là, ça fonctionne pas avec les directives établies, tu peux dire, ben, on va attendre le pasteur, t'as-tu pensé demander l'autorisation? Vous pouvez vous exhorter quand vous savez les choses qu'il y a à faire, là. Fait que ça, c'est la même affaire. Fait que c'est dans ce sens-là aussi qu'on va, là.
Donc, nous sommes une assemblée qui est forte, qui est mature. Puis on croit que cette assemblée, c'est une assemblée qui est forte, qui est mature. Puis, nous n'avons pas à avoir peur si notre pasteur n'est pas présent physiquement. Comme Jean-Pierre est notre berger, Christ est aussi notre berger, qui prend soin de ses brebis, de son troupeau, dans son ensemble, et nous garde ensemble dans la bergerie. C'est pas le moment de négliger notre assiduité, notre participation à notre assemblée, parce que Dieu veut rassembler ses brebis, puis il veut nous rassembler ensemble pour qu'on grandisse, puis qu'on reste fort.
J'avais juste un petit exemple qui me venait à cœur. En tant que parent, ça, vous avez sûrement tous vécu ça. Si, pour une raison ou une autre, vous deviez faire garder vos enfants. Puis là, je suis pas en train de dire vous êtes des enfants, c'est un exemple que je donne. OK. Si vous deviez faire garder vos enfants, vous allez prendre quelqu'un que vous avez certains critères pour choisir votre gardienne. OK. Puis la gardienne, vous attendez à ce qu'elle applique ce que vous y avez demandé de faire pendant que vous ne serez pas là. Mais vous attendez aussi à ce que vos enfants écoutent la gardienne. Parce que vous ne voulez pas qu'en revenant, soit que la gardienne n'a pas fait ce qu'elle a demandé, ou que les enfants, c'est le free-for-all, puis là, c'est tout est détruit dans la maison, puis tout ça, là, tu sais. Ou bien, il y en a un qui est parti, puis elle ne sait pas où qu'il est, ou des choses comme ça, tu sais. Fait que c'est un peu ça, tu sais, c'est dans le sens de prendre soin les uns des autres, de se garder les uns des autres, puis on a à faire confiance aux gens qui ont été établis, vous les avez votés. C'est vous qui les avez votés, puis selon, ça a été selon les critères, là, parce que c'est ça, Jean-Pierre a toujours un regard sur ces élections-là pour être sûr que c'est des gens remplis du Saint-Esprit, des choses comme ça, qui vont être là. Fait que, il n'y a pas de problème avec ça. Fait que, juste se souvenir cet exemple-là, ça va nous aider à rester ensemble. C'est que, on n'a pas, le plus beau, je pense, cadeau qu'on peut faire au pasteur, c'est qu'il trouve une assemblée qui n'est pas en chicane, puis qui est en paix, puis qui se respecte, puis qui est solide ensemble, puis qui est pleine de feu. C'est ça, ça va être son plus beau cadeau, là, en venant de vous voir que, tout est dans, fonctionne en ordre, tu sais, dans l'ordre du Seigneur, puis dans l'ordre pratico-pratique aussi, puis qu'on prend soin les uns des autres.
Puis présentement, ben, moi je pense qu'on, je crois qu'on a une belle occasion de nous montrer notre maturité en tant qu'assemblée par une collaboration pour aider ceux qui ont la charge d'appliquer les directives mises en place lorsque le pasteur est présent au milieu de nous, même lorsqu'il n'est pas présent au milieu de nous.
On est très content de ceux déjà qui s'impliquent, là, puis continuez à vous soutenir les uns les autres. Ça a été vraiment une belle avant-midi pour ça, là, de voir un fait ci, un fait ça, ça l'apporte à un, ça l'apporte à l'autre. On a tous reçu là, déjà ce matin, là, hein? Puis on le sentait, la présence de Dieu, là, fait que ça, c'est super, fait que c'est... Puis c'est ça, chacun faisait ce qui avait été demandé de faire ou qui avait eu l'approbation. Puis je veux dire, ça a tout glissé. Tu sais, il n'y a pas eu de retenue. Puis je pense pas qu'il y ait personne de frustré ce matin. Ça a bien été bien.
Donc, on peut dire que l'Église est forte, car même si un est blessé, il y en a d'autres qui continuent à servir, d'autres qui s'occupent de ceux qui sont blessés et d'autres qui veillent. D'autres qui montent la garde, d'autres qui enseignent, d'autres qui évangélisent, d'autres qui servent manuellement, d'autres qui apportent la louange, et tous ensemble pour le bon fonctionnement et l'accroissement de l'Assemblée. Puis on voit un exemple de ça dans Moïse encore, que dans Exode 17-8, c'est Moïse qui est en train de monter en haut de la montagne, puis Josué est en train de faire le combat en bas de la montagne. Puis Moïse, on sait pas trop, mais on a l'impression que ça dure longtemps, la période de la guerre. Puis à un moment donné, Moïse, ben, il s'épuise. Puis Moïse, ben, même si c'est un grand homme de Dieu, puis qui est fort, puis qui est bon, puis il a l'onction de Dieu, ben, il a besoin d'Aaron, puis Hur, pour soutenir ses bras. Parce que physiquement, à un moment donné, les bras, ça vient dur de garder ça pendant une heure de temps en l'air. À un moment donné, il y a l'acide lactique qui fait que ça travaille, veut pas. Donc, il avait besoin de deux personnes, chaque personne, pour l'aider. Puis lorsque les bras étaient en l'air, mais l'armée avait la victoire. Puis Aaron et Hur, mais c'était, ils soutenaient Moïse dans la victoire. C'est comme s'ils étaient tous ensemble, tous dans une équipe. C'était pas juste Moïse tout seul qui tenait les bras. Oui, les bras, ça symbolisait l'autorité que Dieu avait déléguée à Moïse, mais il y a quand même du monde qui l'aidait pour supporter puis soutenir la victoire dans ça. Puis Yvan, il disait qu'il y avait un rosier mère qui fait plusieurs boutures, puis partout sur le terrain. Bien, même si on essaie d'arracher une bouture, mais il y a d'autres boutures qui repoussent. Puis moi, ça me faisait penser à cet exemple-là, Yvan. Je sais pas si vous connaissez un petit peu le jeu de la marmotte où il y a plusieurs trous, puis il y a quelqu'un avec un maillet qui essaie de frapper la marmotte. Donc, il y a plusieurs trous, puis on essaie de frapper la marmotte dans son terrier, mais il y en a d'autres qui sortent par d'autres trous, puis on ne réussit jamais à atteindre la marmotte parce qu'il y en a trop qui sortent en même temps. Donc, c'est ça notre but. C'est ça notre but comme Église, c'est qu'il y ait plusieurs de personnes qui sortent de leur terrier puis qu'on dise on se lève ensemble. Puis même si l'ennemi essaie de taper sur quelqu'un, il va dire, ben Colin, il y en a un que j'essaie de frapper, mais il y en a 15, 20, 50 qui se lèvent en même temps. Puis là, l'ennemi va dire, je sais plus où frapper. Je ne sais plus frapper parce qu'il y en a trop. Donc, on achève en conclusion. Dans Actes 2, 46-47, ils étaient tous ensemble, assidus au temple, à rompre le pain dans la maison, prenant leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu, et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur, ce qu'il faisait, quand il voyait qu'il y avait un ensemble, une unité, il ajoutait chaque jour à l'Église, puis l'Église pouvait croître. Parce qu'il y avait une structure dans l'Église. L'Église avait une structure qui était capable de supporter la croissance. On voit que ses disciples étaient tous ensemble au temple. Ils rompaient le pain, mangeaient ensemble. Puis c'est le Seigneur qui venait ajouter. Donc ça, c'est, je trouvais que c'était le principe de rassemblement. Ce que je veux dire, c'est que les intérêts de l'Assemblée et la croissance de l'Assemblée sont supérieurs à nos intérêts et aux besoins personnels, de nos différends et de nos blessures. Nous devons passer par-dessus nos différends pour l'intérêt de l'avancement de l'œuvre de Dieu. Ils doivent être des intérêts supérieurs à nos intérêts propres. Nous ne sommes pas de ceux qui quittent notre assemblée pour nos propres intérêts, mais nous sommes de ceux qui se soutiennent ensemble pour former une assemblée forte et unie. Quelque chose de plus grand qui nous rassemble pour l'avancement du royaume de Dieu. Donc, il y a quelque chose en dedans de nous qui dit qu'il y a quelque chose d'encore plus grand que juste nos propres besoins. Puis même s'il y a des petits accrochages ou des petits conflits ou des faits du monde qui ont peut-être pas la même opinion, ça peut arriver. Mais si on a un intérêt qui est supérieur à nos intérêts personnels, on va être capable de s'entendre, on va être capable de se parler, on va être capable d'échanger puis d'être d'accord sur un même point, puis on va grandir. Je ne sais pas si c'est un exemple. C'est beau? Donc, ce que Yvan disait la dernière fois, c'est la totalité est supérieure à la somme des parties. Unis ensemble, on va être plus fort que si on est désunis chacun de notre côté à penser à nos propres intérêts personnels. Un en combattait 1 000, deux en combattait 10 000. Donc, il y a l'effet de synergie qui est multiplié par la force de l'unité, comme les marmottes qui sortent du trou puis disent « On va t'avoir puis on se laissera pas se fasser sur la tête comme que tu veux essayer de nous faire. » Donc, en terminant, j'ai fait un medley qu'on va faire chacun notre tour, moi puis Sylvie, un genre de rigodon, un genre de medley. C'est quoi l'Église?
L'Église, c'est chacun de vous qui êtes des pierres vivantes, qui ne sont pas figées par le mortier, mais qui bougent, qui marchent, qui sont ambassadeurs de Christ tous les jours de la semaine.
La vie de l'Église, c'est aussi la semaine, de ce que nous vivons la semaine et ce que nous venons partager et témoigner ensemble le dimanche matin. Les témoignages de ce que Dieu a fait durant la semaine, qui nous encourage, qui nous fait augmenter notre foi lorsque nous entendons le témoignage de Dieu qui agit dans telle situation. Comme exemple, Jean, la dernière fois, qui nous a témoigné d'une des personnes qu'il connaissait, on pensait la débrancher. Jean a eu la foi de dire, je monte à Montréal, puis je vais prier pour cette personne-là, puis on va voir qu'est-ce que Dieu va faire. Puis il a mis Dieu à l'épreuve. Puis après ça, de voir Jean qui nous dit, ben finalement, on la débranche pas pour qu'elle soit morte, mais pour qu'elle vive. C'est ce genre de témoignage-là qu'on apporte le dimanche matin et qu'on a vécu durant la semaine, puis qui encourage d'autres personnes de dire, ben si Dieu a utilisé Jean, ben Dieu va m'utiliser aussi. Parce qu'on est tous égaux, puis on est tous ses brebis.
Nous sommes le sel et une lampe, et Christ est la lumière qui brille en nous, et nous pouvons apporter la lumière partout où nous allons.
Le culte du dimanche matin, c'est un temps de rassemblement pour louer Dieu, de tout ce qu'il a fait et accompli, de nous encourager, de nous exhorter, de porter les fardeaux les uns des autres, que lorsqu'une personne est attaquée, Dieu se lève pour combattre et la protéger.
L'Église, c'est vous qui vous levez avec la foi en disant que Christ est ma victoire, qui refuse de se laisser voler et dérober par l'ennemi, qui dit à l'ennemi « Assez, c'est assez ». Levons-nous tous de nos terriers et sortons de nos terriers. Et lorsque l'ennemi va vouloir attaquer une personne, nous allons tous nous lever avec notre armure et notre épée pour combattre.
L'Église, c'est chacun de nous qui découvrons les dons et les talents que Dieu a placés en nous, qui les mettons en pratique et au service des autres pour l'édification du corps, pour l'avancement de son royaume et servir dans le monde tout autour de nous. Et personne ne peut dire que vous n'avez pas de talent. Personne ne peut dire « Moi, j'ai pas de talent. » Parce que Dieu, il nous a tous créés à son image. Donc, s'il nous a tous créés à son image, puis qu'il a créé certaines personnes à son image, il a créé tout le monde à son image avec des dons, des différents. Mais vous avez tous des dons, vous avez tous des talents. Puis, je suis convaincu que vous les savez. des fois, vous avez peut-être peur de les mettre en pratique, mais avec la grâce de Dieu, avec la force de Dieu, vous êtes capable de les mettre en pratique, ce que Dieu a placé en vous pour l'éducation du corps de son corps.
L'Église, c'est chacun de vous qui êtes le sel, qui a porté votre saveur, qui vous impliquez, ce qui fait que le fardeau et la responsabilité ne reposent pas sur les épaules d'une seule personne.
Finalement, on nous reconnaîtra à l'amour que nous avons les uns pour les autres.
Oui, fait qu'on est tous importants. Puis vous voyez, je pense pas quand même depuis le départ de Jean-Pierre, vous pouvez dire j'ai pas été nourrie un dimanche. Tous ceux qui ont remplacé à date, hein, vous avez été nourris. Fait qu'on on a quoi là? On est équipé, hein? On est équipé. Il y a plusieurs choses qui se passent là. La prière continue, les choses continuent. Fait que on est ensemble. On est tous précieux, puis on est un. On est un. Puis ça, c'est tellement précieux. Puis c'est tellement la base pour que la gloire continue. Hein? Parce qu'il dit, vous serez un, comme nous et le Père, on est un. Donc, on va prendre la Sainte-Cène ce matin. Puis on va parler de cette unité-là, parce que dans la Sainte-Cène, ça dit de discerner le corps de Christ. Pas juste son corps sur la croix, mais le corps que nous sommes. Nous sommes le corps de Christ. Nous le sommes ici, mais aussi penser peut-être aujourd'hui à tous les autres, aux autres assemblées, aux autres dans d'autres pays, pour pas dénigrer personne. Pas dénigrer personne. Tu sais, quand on a un corps, toutes les cellules du foie, ils se ramassent dans le foie. Les cellules du cœur se ramassent dans le cœur. Cellules de la peau se ramassent dans la peau. Si tes cellules du cœur qui sont dans la peau ne feront pas long feu, ben ça va faire quelque chose qui ne marche pas. Tu sais, rien qui dit cellule, ça ne marchera pas. Fait que nous, on est un assemblage. On est un solide assemblage. C'est comme un organe. On a notre couleur, on a notre fonction. Mais les autres aussi, dans le corps de Christ, ils ont leur couleur, ils ont leur fonction. Fait qu'ils ne sont pas comme nous autres. Gloire à Dieu. Dieu les appelle à ce qu'ils sont, puis nous, nous appelle à ce que nous sommes. On ne peut pas les jalouser, mais on ne peut pas non plus les diminuer. Bénissons chacun, parce que quand on les bénit, on bénit le Christ. Ils sont le corps de Christ. Fait que ça puisse être ça, puis qu'on continue de marcher ensemble jusqu'à son retour, au retour du pasteur. Ça va être pour présentement, s'il te plaît. On va prendre la Sainte-Cène. As-tu de quoi rajouter?
Je voulais juste finir en conclusion. On a commencé avec Exode 18, puis le dernier verset de 18, c'était « Afin que vous parveniez tous à destination en paix et dans la victoire. » C'est notre désir, et je crois que c'est le désir de chacun de vous, qu'on puisse parvenir en paix, dans la victoire et dans l'unité.